Voilà, je te découvre. Salon d'Asie. Continent d'où viennent mes ancêtres, du côté de mon père. L'Indochine. Leur patrie, leur exil. Ici, sur ma gauche, un homme qui te ressemble, papa. Et cette femme qui pourrait être aussi ta sœur, ma tante. Habillée telle que vous êtes, avec ces pagnes qui ne ressemblent pas à ceux que je t'ai vu porter. Ouais, ils sont bien nés d'un imaginaire d'artiste qui certainement avait visité l'Asie, mais n'ont point capté l'essence de cette culture. L'image, le contour, les formes, les textures, sans doute, l'âme d'un peuple. Non, ce n'est pas ce que je ressens ici. Nulle âme d'un peuple, simplement un Orient rêvé, fantasmé, par des hommes et peut-être aussi des femmes, venus y trouver exotisme. Exotisme. Exit. L'âme des peuples. On peut prendre, on peut voler, on peut usurper, on peut dénier et simplement dénuder l'homme en face de soi et la femme qu'au fond on ignore et dont simplement l'apparat nous séduit.
Je suis un peu à l'extérieur. Ou à l'intérieur d'ailleurs. Et j'observe. J'écoute. Les voix d'enfants. J'aime bien observer. Ces peintures sont magnifiques. Et moi, je suis une génération, je pense que c'est la fin des colonies. Et je ne savais pas ce que c'était, les colonies. Et je me disais, les adultes, ils partent en colonie de vacances, je ne comprenais pas. Ça, c'est la fin de la... C'est comme... j'étais petit, j'entendais le mot OAS, je ne savais pas ce que c'était. Et dans la cour d'école, on disait, ça veut dire on a soif. Tout ça, c'est l'imaginaire des enfants, de toute cette histoire qui se porte ici et ailleurs. Voilà.
Quand j'étais toute petite, c'était un musée qu'on appelait ou qu'on visitait en parlant du musée des colonies. Et donc, c'est un musée qui a toujours été dans mon âme d'enfant et dans mon imaginaire. Ma famille, comme peut-être beaucoup de familles, a un lien avec la colonisation, en particulier l'Indochine. Je vais vous raconter un peu mon lien historique. J'avais un parrain qui avait été nommé comme le, entre guillemets, le poète ou l'artiste de la famille et qui, du coup, avait été envoyé en Indochine sur des plantations de thé pour une aventure de travail colonial. Jeune homme, je dirais naïf, et il s'est trouvé dans une responsabilité très importante. Ma mère, c'était donc son frère, a fait des études de géographie et elle a décidé de faire sa thèse, son doctorat, quoi, un écrit sur cette question de cette plantation d'Indochine. Et donc elle est partie en bateau pour le rejoindre et avoir sa matière, ses photos sur cette histoire de son frère et de cette plantation donc coloniale. On disait Indochine, on disait Annamite, on disait indigène, les Moy. C'était les termes qui étaient employés dans mon contexte d'enfant. Et donc, toute ma jeunesse de petite fille, ma mère nous racontait, avec toute son imaginaire et tout ce qu'elle rajoutait, le tigre qui avait crié la nuit, les singes qui lui avaient envoyé des noix de coco sur le visage, le python qui était dans le grenier. Donc elle nous a baignés avec naturellement sa relecture et son, je dirais, sa fonction de maman, dans cet imaginaire de l'Indochine et de ce passé. Naturellement, on est dans un autre monde. J'ai embêté beaucoup ma mère quand elle disait indigène, je l'ai embêté beaucoup. Parce qu'elle avait, surtout dans le vieillissement, ces vieux mots qui ressortaient. Et j'ai essayé, entre guillemets, de la corriger, voilà, de la... Mais maintenant que je suis vieille, je me rends compte que les vieux mots ressortent aussi. Alors maintenant, avec mes enfants, une fille en particulier, j'apprends aussi le mot racisé. J'apprends plein de mots qui correspondent en effet à des lectures d'aujourd'hui. Et je trouve ça intéressant d'être dans cette espèce de double dimension, la dimension de notre enfance, quoi, de mon enfance, et la dimension de nos enfants qui sont de notre époque, qui revisitent les choses, et donc qui ont une relecture aussi de cette histoire-là qu'elles connaissent, et aussi les mots qui changent, et l'éducation par les mots. Et c'est vrai qu'on disait Indochine, on disait, voilà, on disait les indigènes, les boys, les sous-hommes, entre guillemets, les hommes de la forêt, les anamites qui étaient, etc., etc. Histoire plus compliquée, c'est que donc cet oncle qui était mon parrain, donc il est revenu en France, il a eu énormément d'enfants, de femmes différentes qu'il a connues là-bas. Et ce qui est assez touchant, ça c'est ma mère qui m'a raconté tout ça, c'est que tous les prénoms des nombreux enfants qu'il a eus, je ne sais pas combien d'années, mais plus de 6, en fin de compte, il avait donné au premier le prénom de François comme français, et puis après il avait donné tous les prénoms de ses enfants à ses frères et sœurs. Et quand il est revenu en France, avec la question de la guerre d'Indochine qu'il a traversée, il a, entre guillemets, désiré ramener, protéger deux de ses enfants sur l'ensemble de ses enfants. Et après, l'histoire se perdurait parce que donc c'est un autre enfant qui était resté là-bas, qui a voulu le retrouver et le rencontrer. Et lui, il était déjà assez âgé. Et je dirais qu'il a clivé les choses, c'est-à-dire qu'il n'a jamais voulu le voir parce qu'il avait fait une coupure dans cette question très difficile. Et ça lui était impossible d'accepter de voir quelqu'un, un enfant qu'il avait abandonné, mais qui était resté là-bas, et que lui, il avait ce choix. Il y a un film, Le choix de Sophie, qui est absolument étonnant là-dessus. Comment, dans des situations douloureuses, on est obligé de faire des choix qu'après, on ne peut pas... voilà, donc c'est une histoire familiale. Et tout ce palais, pour moi, est là-dedans. Voilà, merci, et merci pour votre proposition.
Il est 14h27.
Je vois un homme.
Quelqu'un avec une flûte. Et des grandes plumes.
Assis sur un serpent qui est en train de regarder le monde, regarder les animaux et les hommes qui sont autour de lui.
Un lion, une personne sur un éléphant avec des personnes dedans.
Et en face de lui, un sage qui est en train d'expliquer, tout en ayant un parchemin dans les mains, sans doute le confucianisme.
Bah, on dirait un peu... ça ne représente pas l'esclavage.
Bah, je suis très heureuse d'être dans ce salon, parce qu'il est rarement ouvert. Je me dis que j'aurais bien aimé vivre à l'époque où ce salon a été créé. Je me demande comment les hauts dignitaires se mouvait en fait, enfin évoluait dans une pièce aussi chargée. Est-ce qu'ils étaient intimidés? Est-ce qu'ils bombaient le torse?
Je suis attiré aussi par le fait que les gens sont souvent un peu par deux.
Deux femmes et un enfant. Et encore derrière, deux hommes qui portent un tronc, on dirait. Bon, les visages sont plutôt sereins.
Ces fresques sont assez belles. Je verrais bien ça chez moi. Un magnifique salon, voilà, où je recevrais des amis. Voilà. J'aurais pas recouvert les fauteuils de velours rose, mais pourquoi pas. En tout cas, il y a là un très beau fauteuil avec une tapisserie, des tapisseries qui sont dans l'esprit des fresques que je vois sur les murs.
Des tables avec un effet un peu de fourrure, comme si le bois était en fait un pelage d'animal. Ça donne envie de caresser la table un petit peu.
On a l'impression que c'est quand même très imaginaire, très poétique, très onirique. J'y vois pas forcément des scènes de vie croquées sur le vif et reproduites avec justesse à l'identique. En tout cas, le lieu, moi, je le trouve bien agréable. J'aurais envie même de fermer les grandes portes comme ça, sentir un peu isolé dans un cocon et ramener quelques musiciens. En fait, ce serait l'endroit idéal pour un petit concert intime et privé. Profiter de la musique pour faire voyager et voltiger les notes, ça doit être juste parfait. Voilà, voilà.